Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, 23h01 sur Mon Paris FM. Aujourd'hui, finale Euro 2024, Espagne 2, Angleterre 1, 7 matchs, 7 victoires, 4e sacre pour l'Espagne, succédant ainsi à l'Italie. Le débrief de cette finale se passe dans Au bout du foot sur Mon Paris FM. Quels sont les faits marquants de cette finale? Vos tops, vos flops? Quels joueurs se positionnent pour le ballon d'or si tant est qu'il y en ait? Également dans la deuxième partie de ce Au bout du foot réalisé par Jason Linder, on va parler de Didier Deschamps. Didier Deschamps maintenu à la tête de la sélection tricolore, est-ce compréhensible? Les droits TV de la Ligue 1 et enfin une réponse trouvée certainement avec notre ami Lucas pour les précisions. Et puis en fin d'émission, tout naturellement, on va s'amuser un peu avec notre quiz. Au bout du foot, analyse, commentaire, décryptage et pronostic avec ce soir. Salut Lucas.
Salut Malik.
Bien.
Très content, on avait un beau match, une belle deuxième mi-temps au moins.
Salut Philippe.
Salut, oui, le foot l'a emporté, tant mieux.
Bah écoute, c'est un pro Dédé qui le dit et pourquoi pas. Également avec nous ce soir, salut Ibrahima.
Salut, salut à tous.
Bien, la forme également.
Ça va la forme, bah les Anglais n'ont toujours pas gagné de trophée pour mon plus grand plaisir. Donc,
ah bah d'accord, écoute, il y a des scoops ce soir. Et puis notre ami Abou ne va pas tarder à nous rejoindre dans quelques instants. On va également aussi tenter comme ça, on va surprendre un peu notre ami Stéphane Desenclos, hein. C'est pas prévu. Mais on va tenter comme ça de l'appeler. Non, t'inquiète pas, je vais le faire directement ici. Là, je vois Jason là qui me regarde un peu de travers. Là. Alors les amis, on l'a dit, 4e sacre pour les Espagnols. 2-1 face à des Anglais qui sont restés plus ou moins attentistes. Bien que menés au score, cette équipe anglaise n'a pas forcément voulu prendre son destin en main. Quelles sont vos impressions? Quel a été votre fait marquant, Lucas?
Comme tu l'as dit, je pense que les Anglais n'ont pas voulu prendre leur destin en main. Ils n'ont pas poussé à un partout. C'est dommage parce qu'ils reviennent sur un très beau but. Donc on voit qu'il y avait la place, ils ont du talent devant. Il a fait rentrer Ollie Watkins et Ivan Toney. Il y avait Cole Palmer qui était là, qui avait Jude Bellingham. Donc il y avait matière à faire mieux que ça avec les entrants, avec les joueurs qui étaient déjà là. Donc je pense que ouais, une Angleterre pas assez ambitieuse. Déjà dès la première mi-temps, c'était pas une équipe ambitieuse. C'est pas une équipe qui a essayé de créer le jeu. Et voilà, comme a dit Philippe, ce soir, c'est le foot qui a gagné. C'est l'équipe qui a le plus tenté. Parce que quand même, en deuxième mi-temps, ils les ont bien asphyxiés. Après la première mi-temps, que je compte même pas parce qu'elle est, elle a été soporifique. Soporifique et finalement assez anecdotique puisque l'Espagne marque dès le début de la deuxième mi-temps. Donc vraiment, en se concentrant sur la deuxième mi-temps, on voit que l'Espagne, qui a été plus entreprenante, a marqué deux buts. Et je suis assez content pour eux. Assez content pour le match qu'ils ont fait et pour ce qu'ils ont montré sur toute la compétition. Donc moi qui n'attendais pas du tout l'Espagne à ce niveau-là, je leur tire mon chapeau.
Belle surprise alors pour
toi. Belle surprise, ouais. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, le match que j'avais le plus aimé sur la compétition, c'était Espagne-Allemagne. Et je pense que c'était quand même les deux meilleures équipes de la compétition. On voit sur ce qu'ils ont donné jusqu'à la dernière minute que c'était le très très haut niveau. Mais Espagne a su continuer. C'est rarement l'équipe qui joue le mieux qui l'emporte. Et assez heureux que dans un Euro qui a été particulièrement difficile pour les amoureux de football, ce soit l'équipe qui joue le mieux qui gagne pour une fois. Donc c'est cool.
Mais ce que tu dis, c'est tellement vrai que quand tu regardes bien, l'Espagne bat l'Italie, bat la France, bat l'Angleterre ce soir, bat les Pays-Bas,
l'Allemagne.
C'est un énorme champion.
Ouais, ils ont battu tout le monde.
Ton fait marquant, justement.
Et en plus, le fait qu'ils ont été menés contre l'équipe de France.
Ouais.
Et ils s'imposent. Ils ont été menés contre l'Angleterre. Ils s'imposent. Et on disait la belle santé du football espagnol. C'est leur 4e titre. Les filles sont champions du monde. Les garçons avaient quand même été battus en finale des espoirs. Mais enfin, ça prouve que, en plus, c'est un pays où il y a beaucoup de talent. Et tant mieux, tant mieux, tant mieux. C'est le football, c'est le jeu qui l'a emporté. Les Anglais ont toujours joué dans la réaction. Ils l'ont encore montré ce soir. Donc, effectivement, ça sauve un euro très, très, très moyen.
Ton fait marquant pour cette finale, on le rappelle encore une fois à 23h05, hein, Espagne 2, Angleterre 1, l'Espagne championne d'Europe pour la 4e fois, Ibrahima.
Bah, moi, par rapport à ce match-là, déjà, je voudrais féliciter le coach espagnol ainsi que tous les joueurs.
De la Fuente.
Monsieur Luis de la Fuente, parce qu'ils nous ont proposé un très bel euro, outre ce match d'ailleurs, où il y avait du jeu, ça allait vers l'avant, c'était assez offensif et par rapport à tous les autres matchs et toutes les grosses équipes européennes qui m'ont personnellement pas mal déçu, eux, ils ont tenu leur rang. Et au début de la compétition, je ne pensais pas qu'ils allaient aller aussi loin. Et les voir aujourd'hui champions d'Europe, déjà, ça fait plaisir. Et par rapport à ce match-là, ce que je retiens, bah, moi, c'est surtout le non-jeu des Anglais, en fait, tout simplement. Énormément de pertes de balles au milieu de terrain. J'ai été très déçu de la performance d'un joueur comme Declan Rice, par exemple. Kobbie Mainoo qui s'est mis à perdre beaucoup de ballons aussi en deuxième période. Énormément d'erreurs défensives et des erreurs de relance aussi. Il y a un vrai problème à savoir faire le jeu chez les Anglais. Ils ont toujours ce côté où ils sont toujours dans la réaction, en fait, et ils savent pas faire le jeu. Et voir qu'une équipe avec des joueurs avec autant de qualité, on va pas tous les citer, mais des joueurs comme Jude Bellingham, champion d'Europe avec le Real Madrid, Phil Foden, qui est quand même meilleur joueur de Premier League, qui est le meilleur championnat du monde, des joueurs comme Bukayo Saka, des joueurs comme Kobbie Mainoo aussi, voir qu'ils sont pas capables de faire du jeu et ne serait-ce qu'enchaîner 3, 4, 5 passes vers l'avant, je trouve ça triste et je pense que le souci, il est clairement au niveau du coach.
Pour toi, c'est le coach, enfin, la façon de jouer, la tactique mise en place par le coach
qui
fait que cette équipe joue de cette façon, étant donné que, tu l'as dit, et puis on le constate tous, hein, c'est une équipe qui, individuellement parlant, a d'énormes potentialités, d'énormes qualités. Et pour autant, un peu à l'image de l'équipe de France, collectivement, ça ne pratique pas un joli football. Au-delà même d'être offensif ou pas offensif, il n'y a pas de football dans cette équipe anglaise.
La différence, c'est qu'ils n'ont gagné qu'une Coupe du Monde dans leur histoire. Nous, on en a quand même gagné deux. On est deux fois champion d'Europe. Voilà, eux, les Anglais,
on se console et puis c'est bon, ça suffit.
Non, c'est pas une histoire de se consoler, mais voilà, il y a quand même en plus, c'est une équipe qui joue dans la réaction, qui a que des individualités, bon, qui n'est pas très beau, et en plus, ils ne gagnent pas dans les grands rendez-vous. En plus, ils ne gagnent pas.
Oui, Lucas.
On voit quand même que le projet de jeu, il n'a jamais été de faire du football, je veux dire. Il y a Alexander Arnold qui.
Sauf que Philippe me dit que. Oui, mais l'équipe de France arrive à gagner malgré tout.
Non, mais en fait, c'est une.
Dans le projet de jeu.
Plus, il ne gagnait pas, en fait. Pour il a appuyé ton propos. Il disait non seulement il ne joue pas, mais en plus, contrairement à la France ou d'autres, il ne gagne pas. Donc ça montre à quel point c'est un projet qui est stérile. Et comme je le disais, il y a par exemple Alexander Arnold qui a déjà joué 6 et qui a un peu ses qualités de pouvoir créer du jeu. C'est un joueur très créatif, très technique. Et il préfère faire un milieu avec.
Ouais, mais il a joué les débuts des matchs de poule en l'occurrence.
Il n'a pas joué 6. Il joue 6 maintenant, Alexander Arnold. Je veux dire, il a un profil qui est assez unique dans cette équipe et il a quasiment pas joué de l'Euro au final. Donc c'est assez dommage de se priver de ce genre de profil pour mettre uniquement des gars qui jouent le même football.
Excuse-moi, Lucas, mais moi je suis pas certain que ce soit une question de tel ou tel n'a pas joué. Je pense que c'est la philosophie
du coach.
Après, tu pourras marquer.
Il y a des joueurs qui peuvent représenter une autre philosophie. Et ces joueurs-là, ils l'ont pas mis. Alexander Arnold, pour moi, typiquement, en 6, il aurait pu faire un bien fou. Justement, comme Rodri le fait ou Zubimendi, des vrais 6. Il a ces qualités-là. Alexander Arnold, il le montre à Liverpool où il joue de moins en moins sur la droite et il alterne avec le milieu de plus en plus, où il joue comme un vrai numéro 6 qui est un peu le dépositaire du jeu. Il aurait pu s'appuyer sur ça, Southgate, il ne l'a pas fait et ça montre en fait qu'il ne veut pas jouer au foot, tout simplement.
Abou, tes impressions par rapport à ce match, tu l'as commenté. Hein. Quel est ton fait marquant déjà par rapport à cette victoire, quatrième sacre pour les Espagnols?
Pour moi, c'est le refus du jeu des Anglais, en fait. Ça a refusé de jouer de la première à la 90e minute. Il y a ce but égalisateur où t'es bien garni, et tu marques un très très joli but. Mais derrière, tu refuses de jouer au foot, en fait. Et ça a l'image de leur compétition. Les Anglais, toute la compétition, ils ont refusé de jouer au but, au football, avec quelques coups d'éclat par-ci, par-là. Jude Bellingham à la 90e qui va te mettre un but venu de nulle part. Un penalty qui va tomber à point pour qu'Harry Kane puisse marquer. Watkins qui va rentrer, qui sur un beau jeu de passe avec Palmer qui va marquer. Mais au-delà de ça, il ne se passe rien dans cette équipe, mais vraiment rien. C'est endormissant à mourir. Même la première mi-temps, on la regardait, on se disait, ouais, mais le match, il est ennuyeux à mourir. Mais en fait, c'est les Anglais qui nous rendaient ennuyeux.
Heureusement que les Espagnols ouvrent le score très vite en deuxième mi-temps.
C'est eux qui nous font plaisir, qui derrière ont des. Et on voit les Espagnols, c'est pas 1-0 et je ferme la boutique. C'est 1-0 et j'essaie.
20 minutes après le but où ils les ont un peu asphyxiés, les Anglais. Hein. C'était fort, ça joue au foot, quoi.
Ça reprend un peu, mais dès que tu égalises. C'est fini, repars tout derrière. Donc moi, c'est ça mon feu marquant, les Anglais qui continuent de refuser à jouer au football. et ils sont morts, enfin, à vouloir lutter avec ses idées, on meurt avec ses idées. Ils sont morts, Southgate est mort avec les siennes aujourd'hui.
Il est mort sans idée, plutôt.
aussi
c'est une idée du football, hein, de défendre.
C'est aussi une idée de football, surtout quand ça gagne. Sauf que, comme le disait Philippe, les Anglais, ça ne gagne pas.
En plus.
Comparativement à notre Didier Deschamps. Didier Deschamps, d'ailleurs, hein, comme on l'a évoqué dans le sommaire, on va en parler également. À présent, les amis, vos tops, vos flops. On va commencer, on va commencer par l'équipe espagnole. Vos tops, côté joueur.
Ah bah les deux pépites et puis l'arrière-gauche. Là,
donc tu parles de Yamal et Williams.
Ouais, Williams, ouais. Mm-hmm. Et puis Cucurello, là.
Cucurella.
C'est Cucurella, ouais, voilà. Et puis l'ensemble du collectif, mais enfin, surtout ces trois joueurs-là.
Ouais. Et toi, Lucas, qui t'a émerveillé encore ce soir
Moi,
côté espagnol.
Alors moi, j'ai beaucoup aimé la ligne de trois, là, en soutien de Morata. Ouais. Donc Lamine Yamal, Dani Olmo et le petit Williams. J'ai trouvé que les trois étaient très complémentaires. Ils ont montré ce qu'on veut voir, notamment en deuxième mi-temps, avec des combinaisons dans les petits espaces, en créant du danger, en se faisant à toi, à moi, tu vois, du déplacement, de la technique, ça bouge. C'est le football qu'on aime. J'ai bien aimé les voir tous les trois. Je trouve que le Normand a été très, très solide derrière, qu'il a su bien relancer aussi. Et je trouve que Carvajal, c'est vraiment le mec incroyable.
Le taulier.
Il marque en finale de Ligue des Champions. Ça fait 10 ans qu'il est au Real, qu'il est toujours au
d'ailleurs,
top
une parenthèse,
niveau,
t'as cité c'est... le Normand. J'espère qu'il va quitter la Real Sociedad maintenant, parce que là, il vient de franchir un cap.
Justement, qu'il est annoncé à l'Atlético Madrid, proche en tout cas. Mais je pense que c'est le bon moment pour lui de partir, ouais.
Ouais, effectivement, je pense aussi. T'es top, Ibrahima.
Bah moi, personnellement, j'ai été quand même assez impressionné.
Côté espagnol. Hein.
Oui, côté anglais, il n'y en a pas beaucoup. Non. Donc, j'ai été assez impressionné par la performance d'Alvaro Morata, qui a répété les efforts durant tout le match. C'est un joueur que j'ai beaucoup critiqué par le passé parce que je ne le trouve pas forcément exceptionnel, mais je l'ai trouvé très bon durant cet Euro. Et après, comme l'a dit Lucas, la ligne de 3 en soutien, donc Olmo, derrière l'attaquant, Yamal et Williams, que je trouve qui ont fait une très bonne compétition, excellent. Ils savent jouer ensemble et ils font tout ce que les joueurs de l'équipe de France ne font pas à ce poste-là, en fait.
Et les Anglais aussi,
exactement. Et les Anglais, surtout ce soir, c'est-à-dire que ça combine, ça se projette vite vers l'avant et surtout, ça apporte un réel danger. On sait que ça peut marquer de tous les côtés, aussi bien Yamal, Williams, comme Olmo, qui a mis 2 ou 3 buts dans cette compétition-là.
Ça fait la passe au partenaire qui est le mieux placé, qui peut le plus créer le danger, et pas à celui qui doit tout gagner, le ballon d'or, etc.
Ouais, c'est vrai qu'on ne joue pas pour un individu, hein, je te vois venir, mon cher Lucas.
Exactement.
Allez, t'es top côté espagnol à vous.
Mais top, ouais, c'est pareil, c'est la ligne d'attaque. Mais après, celui que je veux mettre particulièrement en avant, c'est Nico Williams, qui, moi, je trouve, a fait une rencontre tout simplement formidable. Il était juste dans tout ce qu'il a fait. Et je trouve que c'est un joueur aussi qu'on met un peu en pas vraiment à l'ombre, mais sur qui on ne met pas assez de lumière parce qu'il y a Yamal côté droit, 17 ans. Et c'est
mais est-ce que finalement, ce n'est pas mieux pour lui-même d'ailleurs lui. Parce que trop de lumière au bout d'un moment, si c'est pour finir un peu comme Mbappé là.
Ouais, mais faut alterner la lumière. Dire, parce que celui de 17 ans aussi, il faut lui laisser un peu. Ouais,
mais c'est vrai que justement, j'ai peur pour lui, justement.
J'ai
peur pour lui. William, je pense que tant qu'il est comme ça, est-ce que ce n'est pas mieux pour lui? Non, franchement.
Il joue à l'Athletic Bilbao, il ne joue pas au Barça.
Voilà,
il a moins de pression.
Il a moins de pression.
L'année prochaine, il jouera dans un énorme club.
Ouais, il jouera au PSG la saison prochaine.
Ouais, ils vont l'apprendre.
Mais non, franchement, moi, j'ai kiffé son match. Il y a le journal Marca qui, il y a une semaine, titré nos deux flèches de l'équipe. Et ouais, c'est vraiment les deux flèches. Yamal, Nico Williams, c'est juste incroyable les joueurs qu'ils ont. Et comparé à l'équipe de France, tu sens qu'il y a une vraie profondeur de banc aussi du côté espagnol et des joueurs qui, quand ils rentrent, ils peuvent apporter quelque chose.
Mais moi, j'ai envie de m'arrêter un instant. C'est pas parce qu'il a fait un excellent mondial, bien que, hein, c'est Laporte. Emerick Laporte, je suis content pour lui, c'est une revanche quand même quelque part.
Bien sûr.
Ce gars-là a tapé à la porte de l'équipe de France, il n'a jamais été véritablement considéré comme
pendant
tel.
Pendant longtemps en plus. Hein,
et aujourd'hui, il se retrouve en Arabie Saoudite, n'est-ce
c'est
pas
ça.
Et malgré tout, il est appelé et il arrive à être champion d'Europe. Je pense que c'est aussi un exemple de résilience, un bon exemple de foot, surtout que cette équipe espagnole dans laquelle il évolue a fini par éliminer l'équipe de France. C'est cela aussi qui est important et ça prouve que quand on persévère et quand on croit en ce qu'on fait, dans ce qu'on fait, on peut y arriver. Laporte en est un exemple. Salut à toi, grand champion d'Europe désormais s'il en est. Et puis bravo, c'est pareil hein, pour le Normand aussi et tous ces joueurs comme
c'est
ça.
Une belle
un peu comme tu dis, hein, peut-être pas vu comme il se devait, mais malgré tout qui arrive. franchir ce cap-là et bravo à tous les deux. À présent, les amis, côté anglais, on l'a plus ou moins dit, hein, quels ont été rapidement vos tops et vos flops, Ibrahima?
Bah, pour les tops, je ne sais même pas si je vais trouver un joueur.
Palmer, peut-être qu'on est rentré.
Oui, Palmer.
Parce qu'il marque.
Bonne entrée de Palmer et Bellingham, je trouvais qu'il a
il a quand même emmené.
Il a quand même. On sentait qu'il était motivé et il faisait tous les efforts pour pouvoir marquer. Maintenant, côté flop, j'étais très déçu par pas que le match, hein, mais même l'euro de Declan Rice. Ouais. Je trouve qu'il perd énormément de ballons, il n'est pas rassurant du tout. Il
en plus, dans
fébrile,
des zones très sensibles.
Dans des zones sensibles. Et il perd souvent, il a un problème d'appui, il est toujours par terre. Beaucoup de fautes, beaucoup en retard. J'ai été assez déçu quand même de sa performance ce soir et de son euro généralement.
Abou, top flop, côté anglais.
Alors, top, moi j'aurais mis Gueye. Ouais, le défenseur central, je trouve quand même qu'il ne fait pas un match dégueulasse. Après, il prend l'eau quand l'équipe prend l'eau. Donc voilà, mais je trouve qu'il a fait... C'est un joueur assez surprenant, moi, que j'attendais pas moi à ce niveau-là. Mais je trouve qu'il a plutôt fait une bonne finale. Lui, il peut être content de lui. Et côté flop, Phil Foden, quoi.
Et dire que j'ai mis quand même... J'ai fait un pari sur lui dans l'avant-match. Ah non, là, franchement, il m'a déçu.
C'est plus possible, Phil Foden, Harry Kane. Pareil, mais Harry Kane... En fait, je sais même pas c'est où que c'est mauvais Harry Kane. C'est profond Harry Kane. Je pense que c'est autre chose. C'est même pas de son.
C'est le marabout.
Oui, il est tributaire de tout ça.
C'est trop.
Non, mais j'ai vraiment l'impression qu'il est tributaire de
tout
ça.
On peut pas être aussi poisseux.
Qu'il aurait pu faire le match de sa vie, ça aurait perdu. Non, vraiment Phil Foden. Ouais, même Harry Kane, j'ai même pas envie de lui en vouloir. Phil Foden et Gareth Southgate aussi.
Voilà. Ah, Southgate quand même.
Ouais, Southgate.
Ouais, bien sûr.
Pourquoi
bien
parce sûr. Qu'il refuse le jeu.
Parce qu'il refuse le jeu, parce que même dans ses changements, en fait, finalement.
Mais c'est... il a fait de bons coachings. Oui, un bon coaching.
Il a déséquilibré l'équipe quand même.
C'est un bon coaching, mais c'est, pour moi, c'est pas assez ambitieux encore. Et dans tout ce qu'il fait, c'est la séparation moi et Southgate aujourd'hui, voilà.
Aïe, on du divorce. Officiellement.
Non, mais je le disais.
Sur les zones de mon pari. Finalement, au bout du foot.
Je le disais la semaine dernière, moi, j'aime
finale
beaucoup
Southgate.
Finale de l'Euro
2024. C'est le divorce entre Abou et Gareth Southgate.
Ouais, là,
en fait, tu fermes la porte.
Ouais, là, c'est...
la porte du sud. C'est ça.
Là, c'est... Non, Southgate, c'est pas dans la culture anglaise. De tout temps, les Anglais n'ont jamais été une équipe qui a... qui a proposé du jeu, ils avaient souvent, malgré maintenant une génération pourtant assez exceptionnelle actuellement, mais c'est dans la culture des Anglais malheureusement.
Et du coup, top flop côté anglais?
Foden, c'est la plus grosse déception, et puis ça casse sur le match de ce soir.
Il passe presque, parce que c'est lui qui remet à Bellingham.
Un bon déséquilibre, ça suffit pas à sauver ça.
Lucas, top flop côté anglais?
Les flops, déjà, le milieu de terrain, je rejoins Ibrahima sur Declan Rice, hein, qui est quand même exceptionnel avec Arsenal et qui a raté son euro dans les grandes largeurs. Je trouve que Kobbie Mainoo, malgré des flashs où tu vois que le garçon a un talent monstrueux, s'il était encore trop tendre pour ce genre de compétition du top niveau, ça fait 6 mois qu'il héberge à United. Des fois, c'est les Anglais, ils ont tendance à, voilà, dès que tu cartonnes un peu en Première Ligue, à faire de toi un indiscutable en sélection. Et je pense que c'est un peu l'erreur qui a été faite avec Mainoo, qui, j'en doute pas, pourra s'imposer avec le temps, mais là, pour moi, c'était trop tôt. Devant Saka, j'ai pas aimé sa compétition. Je l'ai trouvé stéréotypé, un peu de l'ombre de lui-même, tu sais, où il essaie toujours de faire son petit crochet de déséquilibré.
Trop prévisible.
Mais exactement, et que finalement, il déséquilibre très peu. Il a réussi sur le but, mais globalement, sur la compétition, c'est trop peu passé. Et même, il n'y a pas eu l'impact défensif qu'on ressent avec Arsenal. Voilà, Kane aussi, très décevant, hein. Sinon, dans mes rares tops, j'ai bien aimé Pickford. Je trouve que notamment...
J'allais le citer.
Alors que moi, je ne suis pas un grand fan de Jordan Pickford de base. Mm-hmm. Je trouve qu'il a quand même une belle présence, notamment sur les coups de pied arrêtés, quand il faut sortir. Je te parlais tout à l'heure de Donnarumma, que moi, je suis tous les week-ends. Bah, du coup, il a quand même des qualités où il rassure bien son équipe, même si sur les deux buts, pour moi, il ne peut pas faire grand-chose. J'ai bien aimé Gueye aussi, derrière. J'ai trouvé plus sûr que John Stones, qui a quand même perdu pas mal de ballons. Je trouve que voilà, il a que 24 ans, Gueye. Il a Crystal Palace, il a le temps de prendre de l'envergure, d'aller rejoindre un top club. Je trouve que la Gueye, c'est un peu une promesse pour la suite qu'il a fait avec les Fulians. Et sinon, je voudrais quand même parler du match de Bellingham. Je trouve qu'il ne crée pas assez de jeux, qu'il a encore des lacunes, mais la fiabilité technique du gars, c'est quand même assez ahurissante. Des fois, il est sur le point de perdre le ballon. Il y a deux joueurs qui viennent contre lui et il arrive à trouver la fin.
Très, très joli jeu de corps.
Il arrive à un jeu de corps, une intelligence d'emplacement.
Hein.
C'est quand même la grande classe de Bellingham. Donc, même s'il perd ce soir, il est dans sa 20e année. Il s'est imposé au Real Madrid dès sa première année. Il nous fait un euro qui... Voilà, il a pas tout réussi, mais il a des flashs lui aussi exceptionnels avec ses deux buts qui sauvent l'Angleterre en début de compétition. Et là, ce soir, il a la passe décisive, il a la frappe magnifique où il fait la feinte sur trois angles, trois Espagnols qui tombent les uns sur les autres. Il fait une passe à Watkins en fin de match qui aurait pu permettre une égalisation. Donc voilà, moi, je trouve quand même que Bellingham, même s'il n'a pas été peut-être à la hauteur de ce qu'on attendait, ça reste assez grandiose ce qu'il nous propose.
Mais justement, hein, tu me fais une passe décisive aussi, si j'ose dire. Tu as parlé de Bellingham. Ça ouvre le chapitre justement du Ballon d'Or. Je suis désolé les amis, mais il faut bien qu'on en parle. On a un euro quand même qui est assez très très important dans la course au Ballon d'Or qui vient de se terminer même il y a à peine 20 minutes là. Est-ce que finalement ça vous a donné une réponse par rapport au futur Ballon d'Or en termes d'indice au moins?
Est-ce que l'euro va être plus important que la Ligue des Champions?
Bon, j'espère pas.
Un condensé, un cumulé de tout
sera,
ça.
Non, là, je pense que ce sera Bellingham le ballon
peut-être
d'or.
Légèrement, ouais.
Je pense qu'il va
le
prendre de quelques points d'avance sur Vinicius. Par contre, Lamine Yamal qui va sûrement faire son entrée dans le top 5, alors qu'il n'était pas du
top
tout.
Top 10, peut-être pas top 5.
Moi, je le vois bien dans le top 5 quand même avec la.
Moi, je pense que c'est plus Carvajal qui mérite un petit top 5 là.
C'est Carvajal le remporte même
toujours.
Carvajal ballon d'or, c'est pas.
Non, pas ballon d'or, on dit top 5 parce qu'il est toujours régulier, il a tout gagné, il marque en finale.
Pour l'ensemble de son œuvre.
C'est un peu comme Modric en 2018, ce sera un peu pour l'ensemble de son œuvre.
Cannavaro.
Mais c'est un arrière.
Plus Cannavaro, il a fait une Coupe du Monde extraordinaire en 2006. Donc plus Modric en 2018, qui n'est même pas forcément le meilleur à la Coupe du Monde, etc.
Ouais, mais il est offensif quand même, Modric, il y a quelque chose. Mais là, on parle d'un latéral quand même. C'est assez rare, les amis.
Qui est super complet, qui est l'archétype du latéral que toutes les équipes ont envie d'avoir, qui est fiable derrière, et qui est très bon techniquement, qui sait quand monter, quand descendre. Non, franchement.
Donc toi, tu milites pour Cavara.
Ah non, pas du tout. Moi, je pense que c'est Vinicius qui doit l'avoir.
Ah, pour toi, c'est Vinicius.
Pour moi, c'est Vinicius.
Avec une Copa América quand même.
Complètement raté,
c'est pourri.
En fait, c'est tellement le facteur X. Le mec qui déséquilibre tout le temps dans la meilleure équipe du monde, qui a fait des misères notamment à City quand ils ont eu du mal, que pour moi c'est Vinicius. Ouais, Vinicius, c'est tout en fait.
Et toi Ibrahima, ton ballon d'or, parce que l'Euro vient de finir, il y a forcément des joueurs qui se détachent.
Alors oui,
tu citerais qui là?
L'Euro vient de finir, mais ce soir il y a la finale de la Copa América et je pense qu'ils vont le donner à Messi encore une fois. Donc
si toutefois Messi gagne,
ils sont capables, sincèrement.
Ça veut dire qu'un doublé de Messi cette nuit,
non,
ballon d'or potentiel.
J'ai confiance en nos collègues journalistes.
Personnellement, je suis pour la Colombie ce soir. Mais un triplé de Messi, ils sont capables.
James Rodriguez qui revient.
Les amis, je pense que ce que Ibrahim a dit n'est pas forcément nul. Je te jure, un doublé, voire un triplé de Messi ce soir.
Il faudra aller les attraper, alors.
Champion, je peux te dire
ce sera scandaleux, mais ce sera pas la première fois, en fait.
Non, mais et plus, c'est même pas ça. C'est que quand tu regardes bien, la preuve, on est en train de discuter. Il y a aucun joueur qui se détache.
Arrête de discuter, là.
Il y a aucun joueur qui se détache vraiment, Jean-Lucas.
Il y a des joueurs que
personne ne se détache.
Ils se détachent pas, mais ils ont été meilleurs que lui, quand même.
Bien évidemment.
Messi n'a aucune légitimité.
Sauf qu'il est présent. Il y a majeur, il est présent.
Il y a plusieurs années où il n'a pas été légitime.
Non, non, il a quand même pas marché. Il joue en Europe. Il marquait 50 buts par saison. Ouais, là, c'était le mec le plus en vue du football mondial.
Bah, au PSG, là, il est
aux États-Unis. Ouais, il ne fait rien.
Lucas,
c'est pas sur une Coupe du Monde où il a même pas survolé les débats. Une Copa América, pardon, où il a même pas survolé les débats que sur une finale qui marque ou pas. Mais il doit même pas être dans la discussion comme CR en fait. Les deux.
Je suis d'accord avec toi.
L'era est terminée. Merci pour tous les garçons. Au revoir. LeBron James, il joue ses 80 matchs par an. Il est plus dans les discussions MVP aux États-Unis alors qu'on sait tout ce qu'il apporte. Au bout d'un moment, stop. Ils ont 40 ans.
Merci.
Allez, les gars, vous avez énormément donné au football.
Mais les jeunes.
Vous restez des joueurs formidables. Messi n'a aucune légitimité au vu de ce qu'il a fait en 2024 pour prétendre au ballon.
Lucas, je suis d'accord avec toi dans le fond. Sauf que, je suis désolé, il n'y a aucun jeune joueur qui se détache véritablement. Mbappé n'est pas là ce soir, par exemple.
Oui, mais ils sont meilleurs que lui. Ceux qui, les Bellingham,
mais ils gagnent quoi?
Non, mais attends, ils sont meilleurs que.
Ils sont plus légitimes.
Ils jouent à Miami.
Bellingham a perdu ce soir.
Ils ont été compétitifs. Ils ont été compétitifs à très haut niveau.
Des champions,
ils se sont battus pour la Ligue des Champions.
Bellingham gagne ce soir.
Il finit presque piché en Ligue 1.
Alors que ne serait-ce que ça.
Il gagne pas, mais il fait pas gagner à tous les coups. Il fait un bon match. Il a tout gagné avec le Real. Il fait la passe
décisive. Modric en 2018, il gagne pas la Coupe du Monde. Il est en finale de la Coupe du Monde. Il fait une finale bouseuse en plus. Non.
Pas de Messi pour vous.
Jamais.
Philippe, toi aussi, pas de Messi.
Ah non, pas du tout.
Bon, ben d'accord, au moins c'est clair. Tous les quatre ici.
La compétitivité à l'année. Il joue à Miami, totalement. Merci Philippe.
Bah écoute, Stéphane n'est pas là pour défendre la thèse Messi. Donc
on en reparlera.
Ça nous permettra de progresser, justement, les amis, avec cette fois-ci.
Non, non.
non,
on va rester
on
toujours
parle
d'objectivité
dans... après, c'est un objectif. Messi, il n'est pas dans les débats, les gars.
On a bien compris. On a bien compris ta position, mon cher Lucas. On va rester dans cet euro d'une certaine façon. On va parler cette fois-ci, les amis, de notre équipe de France. Bravo à l'Espagne, championne d'Europe. Hein, si vous nous prenez en marche à 23h25, 2-1 face aux Anglais. À présent, notre équipe de France qui s'est fait éliminer justement par le nouveau champion, l'Espagne. 2-1, le même score, tiens, d'ailleurs.
Oui, comme en 2012,
en demi-finale. Ouais. Et malgré cette élimination, les amis, Didier Deschamps, 24-48 heures après cette élimination, ouais, a été confirmé par le président de la Fédération française de football, hein, président intérimaire, autant le préciser, Philippe Diallo, a toujours maintenu notre Didier Deschamps national. Est-ce compréhensible, les amis ? La question est directe. Lucas, ou en Philippe alors. Vas-y,
non, mais l'objectif, c'était la demi-finale, c'est ce qu'on a dit l'autre jour. Donc, même si l'équipe de France n'a pas été du tout séduisante, l'objectif est atteint. Donc, à partir de là...
On respecte le contrat. Voilà. Le contenu, on s'en fout. Tout ce qui a pu se passer en marge et tout ça, on s'en fout.
Sauf s'il y avait des états d'âme de certains joueurs.
C'est-à-dire que même s'il y aurait eu Naïsna là-bas, on s'en fout quand même. Demi-finale atteinte.
Non, c'était différent.
On prolonge le joueur. Non, je pose des questions.
Non, la seule chose où Deschamps peut céder sa place, c'est s'il n'y a plus le courant avec les joueurs. À Naïsna, il n'y avait plus le courant avec les joueurs.
Ni feu, ni
rien. Oui, oui. Domenech, il n'avait plus la confiance des joueurs, tout ça. Là, s'il y a encore la confiance des joueurs, l'objectif, même si c'est pas très brillant...
Mais en sourdine, c'est ce qui se dit, ça est
là. On verra.
C'est ce qui se dit, ça est là. Apparemment, le courant passe plus trop, le discours, il reste inchangé, monotone, monocorde.
C'est le seul motif qui pourrait faire partir des champs. On verra.
En plus, quand ça passe pas, comme on disait dans l'avant-match,
c'est début de la fin.
Les langues se délient. Lucas, justement.
Moi, j'ai l'impression que...
Est-ce compréhensible ?
Alors, j'ai l'impression déjà qu'historiquement, l'équipe de France, elle sanctionne ses coachs toujours trop tard. On se rappelle qu'en 2008, après une piteuse élimination au premier tour, Domenech est maintenu par la Fédération française de football et qu'il faut justement attendre Naïsna où ça pète à la face du monde pour le faire sortir.
Ah là, tu fais peur là.
En 2008, quand même,
c'est une forme de prophétie qui arrive là bientôt.
En fait, ça fait peur. Je trouve qu'en fait, en France, on a un peu trop, en tout cas au niveau des coachs, on vit un peu trop sur leurs acquis. Domenech, il avait fait finale en 2006, là, Deschamps, il a gagné la Coupe du Monde, etc. Donc même si on sent que le vent a tourné, que c'est plus possible pour eux, on va quand même les maintenir jusqu'au bout. Et pour moi, c'est un petit peu inquiétant.
Avec Roger Lemaire aussi, il y avait un truc comme ça, non ?
Oui, enfin, Roger Lemaire, tout allait bien. Roger Lemaire, il
gagne en 2000, en 2002,
trois saisons, on se fait piteusement et il se fait évincer
pour Jacques Santini.
C'était
vraiment différent, il n'est pas resté longtemps. Là, je parle de deux mandats qui ont duré et on va rester sur l'accomplissement principal pour ne pas faire le changement qui s'impose, en fait. Donc moi, ça me rappelle un peu Domenech et j'ai l'impression que il devrait partir, mais que malheureusement, il ne partira pas. Comme dit Philippe, ils avaient une espèce d'objectif qui était la demi-finale et dire voilà, si on est dans les quatre meilleures nations européennes, on pourra continuer. Si on ne prend pas en compte la difficulté du parcours, le jeu déployé, l'investissement des joueurs dans le projet entre guillemets équipe de France, effectivement, si on se base que sur ça, on continue, mais on va droit dans le mur.
À bout de ton sentiment, Didier Deschamps reconduit 24-48 heures après notre élimination en demi-finale.
C'est honteux.
C'est quoi ta perception ?
Est-ce
compréhensible ?
Déjà incompréhensible. Premièrement incompréhensible. Deuxièmement, le reconduire 24-48 heures après. Mais les gars, il n'y a aucune remise en question. Ouais. Faites semblant au moins. Prenez une semaine. Dites-nous que vous avez discuté. Vous avez essayé de voir si le coach il était compatible. On a parlé. On a vu c'était quoi les erreurs. Il n'y a aucune remise en question. Et c'est pour ça que moi je suis d'accord avec Lucas. Je pense que cette équipe elle va droit dans le mur. Parce que le problème, c'est même pas que Deschamps reste coach. C'est que Deschamps reste sans se remettre en question. C'est lui le président il est président de tout, de la Fédération française de football, de l'équipe de France, et faut le faire partir. C'est comme là en ce moment, ils sont à la recherche d'un premier ministre qui rassemble. Mais pareil, prenez un coach qui rassemble. Ce coach il divise, on n'en veut plus, on n'en peut plus. Il y a 4 millions de personnes, vous vous rendez compte ou pas, 4 millions de personnes de moins qui ont regardé l'équipe de France cette année. Alors, on a beau me dire que oui...
Et 51% des sondés qui ne veulent plus le voir.
Et on a beau me dire oui, le foot n'est pas érigé par... ne doit pas être érigé par le média, les instances, etc. Comme je le disais tout à l'heure en avant-match avec Philippe, l'équipe de France, c'est une délégation du ministère public. L'équipe de France, elle appartient pas à monsieur Didier Deschamps. L'équipe de France, elle appartient aux Françaises et aux Français.
Service public.
Les Français et les Françaises n'en veulent plus, mais changez, c'est tout. Et si ça ne fonctionne pas avec l'autre, ça ne fonctionnera pas. Mais moi, je trouve ça honteux qu'on force
mais c'est
avec
qui l'autre
Deschamps. L'autre, c'est, on le sait.
On sait très bien.
C'est celui qui rassemble.
C'est un meneur de jeu numéro 10, originaire de Marseille.
C'est Zidane.
Non, mais je te donne la parole après Ibrahima, mais je suis désolé, les amis. Avec ce qu'Abou vient de dire, même si Deschamps demain n'est plus sélectionneur,
tout le monde attend
il
Zidane,
est président de la Fédération française de football Zidane. Et c'est lui encore qui choisira le sélectionneur. Donc c'est pas fini. Ah non, mais je sais pas si vous m'avez compris.
Juste, mais ce que dit Abou, c'est qu'il a un pouvoir démesuré.
C'est ce que je suis en train de dire.
Effectivement.
Ça veut dire que même s'il n'est pas sélectionneur demain, potentiellement il peut être président de la Fédération française de football.
Qui seront décisionnaires.
Donc qui te dit que Zidane, puisque c'est de lui que vous parlez, c'est bien celui-là.
Ouais, celui-là.
Qui te dit que Zidane viendrait quand même?
Mais moi je pense même que Deschamps va prendre un mandat de président de la Fédé. J'en suis sûr.
Le monde entier va voir.
On attend de voir.
Le monde entier va voir Zidane sélectionneur de l'équipe de France.
Est-ce compréhensible justement le maintien, la prolongation, la confirmation de Didier Deschamps à la tête de la sélection tricolore, Ibrahima?
Si c'est compréhensible, moi personnellement je pense que non, mais d'un côté je pense que oui en fait, parce que je pense que l'équipe de France, généralement la Fédération française de football, est un peu traumatisée de ce qui s'est passé en 2010, et que malgré tout, depuis que Didier Deschamps est sélectionneur de l'équipe de France, il y a quand même
la continuité,
une sorte de paix en fait quand même dans cette équipe. Parce que personnellement, quand entre Domenech et Laurent Blanc, l'équipe de France, c'était un nid à problème, limite. À chaque compétition, il y avait un scandale, ça se passait toujours mal.
Il y a eu pas mal de scandales, notamment Benzema.
Oui, Benzema, ça a duré longtemps.
Excepté Benzema, finalement, on sent qu'au sein du groupe France, des joueurs de l'équipe de France, ça a l'air d'être plutôt calme, mais on sent que Didier Deschamps maintient réellement ce groupe, en fait. Et la fédération a très peur aussi d'avoir des débordements avec les joueurs. En tout cas, moi, personnellement, c'est ce que je ressens. Et je pense que c'est pour ça qu'ils maintiennent Didier Deschamps aussi. Et surtout,
il y a une certaine poigne, quoi.
Oui, il y a une certaine poigne et surtout le côté pragmatique aussi.
Le groupe vit bien, c'est ça.
La fameuse phrase.
Tant que le vestiaire ne va pas lâcher,
tant que le vestiaire ne lâche pas et qu'il n'y a pas d'énormes scandales où on fait la grève, où on insulte des journalistes.
Le vestiaire l'avait lâché.
Et puis autre chose aussi, quand on dit dernier carré, voire finale.
Et oui, et puis il y a ce côté pragmatique.
Mais Pépette rentre, on atteint les objectifs. Au niveau sponsoring,
il y a un côté très pragmatique aussi à la Fédération française de football.
Honnêtement,
mais tu fais tourner la boutique, je suis désolé, Jamy.
Je vais dire un truc et je pense pas être le seul.
Et ça passe par les nerfs de la guerre.
J'ai plus d'attente et un petit peu de frisson avec l'équipe de France olympique qui s'apprête à jouer que ce que j'ai eu avec l'équipe de France. Je veux dire, là, j'avais aucune attente et malheureusement, ça a été confirmé, voire pire. Et là, au moins, l'équipe olympique, il y a un vent de fraîcheur, il y a des espoirs, des joueurs qu'on risque de voir demain. Et bah, les joueurs comme Mathis Tel, Michael Olysée, Désiré Doué, etc., je vais les regarder avec attention. J'ai envie de les découvrir, de voir ce que ça va donner, cette équipe de France de Thierry Henry. J'ai pas eu ça avec Deschamps. Je veux dire, des joueurs dont on connaît les qualités. Enfin, je veux dire, tout le monde savait.
Zéro fraîcheur.
Tout le monde l'avait dit. Et enfin, c'est pas pour faire le mec, mais moi, le premier, en début de compétition, et tout le monde était d'accord
avec
moi.
Mais faut faire le mec. Moi, j'aime les gens qui assument.
Avec Rabiot, Tchouaméni, Kamavinga et Kanté. Qui va créer le jeu?
Personne.
On l'avait dit en
Personne.
Début. Donc, c'était quand même. Il y a des choses
Personne.
Qui sont prévisibles. Ok, on n'est pas dans le secret des dieux, on n'est pas à l'entraînement, etc. Mais rien que sur le profil, on sent qu'il manque un truc. Et on l'avait vu venir et malheureusement on a eu raison. Enfin, il y avait rien à attendre de cette équipe.
Tchouaméni, je suis désolé.
Il a été très en dessous.
J'ai envie de m'arrêter sur lui. J'ai rien contre lui personnellement, mais Tchouaméni, il apporte quoi dans le jeu, les amis?
Tout le mieux.
Moi, quand
il apporte
Tchouaméni...
quoi? Je le disais là, tantôt, Elad me disait,
déjà, il a pas le même rôle qu'à Monaco.
C'est transversal, et machin.
Il a très peu fait. Il a trop peu fait
à ce niveau-là.
Son jeu long, il a beaucoup
mais
trop peu fait.
Moi, quand on parle de Tchouaméni,
quand on a vu
à...
Pogba jouer, Tchouaméni, il apporte quoi
c'est
dans
ça,
le jeu, les amis?
Faut pas les comparer. Faut pas les comparer. Ça, par contre, c'est une grosse erreur.
Tchouaméni, moi, quand je le vois jouer, je pense à une citation, enfin, une phrase que Sébastien Tarrago dit très, très souvent. C'est que ce gars-là joue comme un grand-père.
Journaliste l'équipe.
Journaliste l'équipe, Sébastien Tarrago. Ouais, mais vraiment, si, il joue comme un grand-père. Mais c'est la vérité.
Sa dernière saison à Monaco, il joue comme un patron.
Non, mais là, je te parle en équipe de France. Moi, je te parle pas à Monaco, je te parle en équipe de France. Ce gars-là joue comme un papy. Il est tranquille, il envoie des transversales à droite.
Mais c'est ce qu'on
dit dans un fauteuil.
Des transversales qui n'apportent aucun décalage, les amis.
Il n'apporte rien.
C'est rien du tout.
C'est arrivé trop peu, mais c'est arrivé. Pour moi, le principal problème avec Tchouaméni, c'est encore une fois, doublons sur les profils. Quand t'as Rabiot et Kanté à côté, on gratte tous les ballons et on sait tous pas en quoi en faire une fois qu'ils sont dans nos pieds.
Mais moi je pense que Tchouaméni en fait, j'ai l'impression qu'il ressemble à Deschamps en fait. Non, je te jure, c'est un politique Tchouaméni. Il sait comment parler.
C'est vrai.
Il sait comment
c'est un
se
vrai
tenir.
Numéro 6.
Ouais, okay.
Il a compris quelque chose en fait dans ce milieu-là. Il a percuté le garçon. Ça veut...
après,
on n'est pas en train de
minorer ses qualités.
On va préciser.
À Monaco,
nous ne sommes
chose,
pas
hein.
en train de dire que Tchouaméni est un piètre joueur.
Bah non.
Simplement, quand tu mets Tchouaméni, je suis désolé, tu mets pas N'Golo Kanté à côté, tu mets pas un Rabiot à côté.
Ah,
tu
fais. Je suis d'accord.
Tu l'utilises comme on l'utilise au Real Madrid.
Faut que Désiré Doué.
Parce qu'au Real Madrid, justement, quand on le voit jouer, il y a une vraie plus-value. Parce qu'autour de lui, ça bouge de partout. En équipe de France. J'ai rien compris. Il était sur la même ligne avec Saliba et Upamecano pendant cette demi-finale. Je savais pas à quoi il servait. Première relance, je sais pas, parce que Upamecano quand même est quand même pas mal dans la relance au pied. Donc je ne sais pas c'était quoi l'apport substantiel de Tchouaméni, Ibrahima.
Mais Tchouaméni, moi, sur cet euro-là, il symbolise bien tout ce que, toutes les valeurs que Didier Deschamps a pour le football français, en fait. Tout simplement.
Détruire.
En tout cas, pour moi.
La destruction, c'est ça.
Non, c'est-à-dire que pas trop de vagues, finalement. Ouais. Ça joue pas forcément bien, mais ça avance. Ça va jusqu'en demi-finale. Mais sans plus, quoi.
C'est triste pour notre football,
c'est,
les gars.
C'est triste, hein, c'est triste, mais ça avance. Football,
c'est un bon soldat.
C'est un bon soldat et il ressemble beaucoup à Didier Deschamps, pour revenir
sur ce
que
tu
disais. Peut-être dans pas avoir que des
style de joueur. Même dans la communication.
S'il devient coach à la fin de sa carrière, je ne serais pas étonné, moi, personnellement.
En tout cas, moi, je trouve qu'il fera un très bon défenseur central, vu ce qu'il a donné sur le milieu de terrain et vu ce qu'il a vu de lui.
Il a fait au Real.
Vu de ce que j'ai vu de lui en défense centrale au Real, peut-être que sa place, même si lui, ça a l'air de ne pas lui plaire, peut-être qu'un peu comme Marcel Desailly qui avait fait l'aller-retour en début de carrière, il va finir.
Et puis de temps en temps, il a de belles frappes. On peut lui reconnaître ça aussi.
Oui, ça c'est vrai.
Mais je veux dire, son jeu long dont parle Elhadj parfois, il existe aussi. Je veux dire, il fait des très belles transversales.
Ouais, mais ça c'est bien quand tu es au Real.
Mais c'est surtout
parce qu'au Real, c'est du mouvement perpétuel.
On l'a trop peu vu. C'est pas assez pour qu'il y ait une plus-value sur le jeu de l'équipe en équipe de France. On l'a trop peu vu. Mais, c'était vraiment insuffisant.
Après, le souci,
cela dit, son
jeu Rabiot aussi était insuffisant.
Cela dit, son jeu long, il est bon. Il n'y a pas de débat là-dessus.
Il a trop peu utilisé.
Mais à condition que tes partenaires soient dans le tempo. Autrement, ça sert à rien.
Bah oui, un jeu long vers Mbappé qui va tirer dans le ciel ou Dembélé qui aura du mal à centrer, ça sert à rien.
Voilà. Donc, wait and see, les amis. C'était une petite parenthèse. On aime beaucoup Tchouaméni, mais bon, c'est parce qu'on l'aime qu'on parle de lui aussi. Pourquoi pas, les amis. À présent, on va s'arrêter un peu sur nos droits TV. On va revenir justement dans notre Ligue 1, parce que ça, c'est très sérieux. Philippe est très, très, curieux et concentré, surtout, par rapport à cette Ligue 1. Oui, où est-ce que Philippe va voir les matchs de Ligue 1? C'est quand même une question qui se pose, mon cher Philippe.
Au moins Bein.
Il
y en a un. Après, bon,
on va laisser quand même Lucas nous faire un topo rapide là-dessus. Ouais.
Mais c'est vrai que... Non, puis en plus, le problème, c'est que, outre le fait de voir le match, c'est que ça peut quand même engendrer de grosses difficultés pour la moitié des clubs français. C'est surtout ça. Il y a la moitié des clubs français qui peuvent être carrément en faillite.
Oui, la question s'est posée pour pas mal de clubs. Ouais. On voit qu'il y a Rennes qui a déjà commencé à lancer les... Quand ils ont des très très riches propriétaires comme Rennes, ils savent qu'ils vont y aller, donc ils font un peu les... Ils expédient les affaires courantes, mais c'est vrai qu'il y a des clubs qui sont très très inquiets. Là, les droits, ils traînent depuis des mois, les négociations traînent, et en fait, Dazen et Bein ont eu ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire la Ligue 1 a pris cassé. Ils ont attendu pour faire leur proposition de façon à ce que la Ligue soit au pied du mur, c'est ce qui s'est passé. Vu qu'il n'y avait pas de concurrence sur le dossier, et ben ils ont attendu. Là, on est à moins d'un mois, enfin pile un mois, je crois, du retour de la Ligue 1. Et on a enfin trouvé un diffuseur, donc tout le monde est soulagé. Mais voilà, c'est un prix cassé. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça laisse inquiet quant à la compétitivité du football français pour les prochaines années. Donc 400 millions de la part de Dazen pour 8 matchs sur 9 et 100 millions de Bein pour le dernier, le 9e. Donc ça fait 500 millions... pour les droits domestiques et environ 170 millions pour l'international, donc 670 millions environ pour la Ligue 1. C'est peu, c'est moins que ce qu'on a eu parfois uniquement pour les droits domestiques sans compter les droits étrangers. C'est très très loin des 2 milliards de la Première Ligue. Donc là, on acte en fait que la France rentre dans une espèce de deuxième division européenne, au moins du point de vue économique, puisqu'on s'éloigne vraiment très très largement de l'Allemagne, l'Espagne, l'Angleterre et l'Italie.
Alors les amis, on va faire une petite parenthèse avec notre ami Stéphane Desenclos du quotidien du sport.fr. Salut Stéphane.
Salut les amis, ça va bien?
Oui, ça va même, et toi? Alors, comment t'as vécu cette finale Espagne 2, Angleterre 1?
On a vu une belle deuxième mi-temps, hein. Très belle deuxième mi-temps, avec une logique entièrement respectée, mais on a vu quand même une belle deuxième mi-temps, je trouve.
Alors, le quotidien du sport.fr a fait son équipe type.
Oui, tout à fait.
Alors, est-ce qu'on peut nous donner le 11 de départ?
Alors, le 11 de départ, avec 6 espoirs dans l'équipe, et 4 Français quand même, et un Géorgien, donc dans les buts, Mac Maignan.
Stéphane, je t'arrête tout de suite, hein, parce que t'as tout le monde qui fait de grands yeux là ici. Hein. Donc je te laisse continuer. Mac Maignan dans les buts.
Choisir, c'est Mac Maignan dans les buts, Jules Koundé latéral droit, une centrale avec Aymeric Laporte et William Saliba. Théo Hernandez latéral gauche, après le milieu de terrain de l'Espagne, Rodri, Olmo et Fabian Ruiz. En attaque, pour le fun, on a mis Miko Tadze, parce qu'ils sont 5 ou 6 à avoir mis 3 buts dans la compétition. Alors, en dégager un, il est frais, présente un peu ses petites équipes qui nous ont fait vibrer, comme par exemple la Turquie. Et puis sur les Lamine Yamal et Nick Williams. Voilà, donc c'est vrai qu'il peut y avoir, de toute façon, on dit tout le temps, il y a 70 millions de sélectionneurs en France, donc il y a certainement des dizaines de millions de gens qui ont regardé, qui vont avoir trouvé que d'autres sont meilleurs et tout. Mais bon, ça n'est que la rédaction qui avait été faite en grande partie avant le match, hein, puisqu'il y a une quinzaine de personnes qui ont participé à l'élaboration de cette équipe. Puis deux, trois petites finitions par rapport au match mais ça n'a pas beaucoup changé par rapport au match
de ce soir.
Aujourd'hui, peut-être qu'un Anglais serait rentré dans l'équipe s'il y avait eu un Anglais qui avait fait un grand match, mais bon, c'est un peu le truc fort, c'est surtout ça, qu'il n'y a pas d'Anglais qui est en finale, par exemple, et pas non plus de Néerlandais qui était en demi-finale. Donc voilà, quoi. Maintenant, c'est vrai que c'est sûr que ça ne doit pas plaire à tout le monde.
Non, mais justement, quatre consultants sur le plateau, on va faire réagir deux. Qui c'est qui souhaite réagir, les amis? Lucas?
Je ne suis pas d'accord avec tout ce qui a été mis. Par contre, s'il y a un gros point pour moi qui n'est pas acceptable, c'est Théo Hernandez, arrière-gauche, quoi. C'est pas possible. L'ombre de ce qu'il peut montrer avec l'AC Milan. On a vu très peu de débordements. Il n'a pas apporté le surnombre offensif comme il le fait à Milan. Il n'a pas été très sûr derrière. On a eu quand même pour moi un pâle Théo Hernandez et je suis très très surpris qu'on puisse le mettre dans une quelconque équipe type.
Rapidement, Stéphane, en réponse.
Non, je comprends que si il pense ça, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Je pense que peut-être que Lucas reste un petit peu trop focalisé sur son dernier match contre l'Espagne, qui a effectivement pas été très bon, comme toute l'équipe. Mais sinon, je pense que dans l'ensemble, notamment en phase de poule, et puis ce qu'on explique un petit peu aussi quand même dans l'article, c'est que ça a quand même été un euro assez moyen quand même, faut aussi le reconnaître.
Hein, ça, je suis d'accord.
On a un beau gagnant. Et on a une belle, peut-être, deuxième période. Ça a été un euro assez moyen. Et puis, bon, bah, peut-être Cucurella aurait mérité peut-être d'y être à sa place. Mais il n'y a pas eu non plus de gens qui ont surnagé. Nous, on a trouvé, en tout cas, que c'était ce qu'on avait vu de mieux à ce poste-là. Mais il n'y a pas eu non plus de choses fracassantes. Hein. Il n'y a pas eu de latéral gauche fracassants qui sont arrivés jusqu'au bout, quoi. Au moins en demi-finale ou en quart de finale pour qu'on les voit.
Deuxième réaction autour du plateau, Ibrahima, Abou, Philippe, par rapport à l'équipe type, est-ce que vous avez des observations à faire rapidement?
Je pense qu'il aurait quand même pu mettre Dani Carvajal à la place de Jules Koundé, tout simplement parce que à la fin c'est les vainqueurs.
Donc,
les vainqueurs
en fait, les questions se posent au niveau des latéraux finalement, que ce soit avec Lucas pour Hernandez et.
Je comprends, hein, je pourrais presque dire, moi c'est un choix un peu collectif, hein, mais je peux presque dire que ces choix font un petit peu des fois office de choix par défaut. Effectivement, Carvajal aurait pu y être, Carvajal il est
champion d'Europe quand même, et potentiel sûr, ballon d'or, hein.
Et puis il a marqué un but dans la compétition, d'accord, mais bon, moi il s'est quand même fait expulser volontairement pour stopper une occasion adverse. C'était pas très fair play, peut-être que ça a joué dans la différence. Je pense que Jules Koundé, on peut pas lui demander grand chose de plus.
Il a fait un CSC, Jules Koundé, hein, un CSC qui élimine son pays, hein.
Oui, d'accord, mais bon, c'est pas vraiment. Bon, si vous voulez, moi je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de...
Non, tout est chahuté un peu. Dans tous les cas, l'équipe type du quotidien. L'équipe type du quotidien du sport.fr, hein, à retrouver, hein, l'équipe type de 7 euros 2024, à retrouver rapidement, justement, sur le quotidien du sport.fr. Alors, Stéphane, rapidement. Pardon ?
Ouais. Je disais bonnes vacances à tous.
Merci, bonnes vacances à toi. Mais juste avant de te laisser partir, une petite minute en une phrase. Les droits TV de la Ligue 1, Lucas l'évoquait juste avant qu'on te prenne à l'antenne. Hein. Il y a une conjugaison Bein, Dazen, justement, qui arrive.
Oui.
Quel est ton sentiment rapide là-dessus?
Mon sentiment, c'est que je trouve ça incroyable si on veut Moi, j'aime bien un peu chambrer, c'est qu'en fait, le président du PSG, il paye pour qu'on puisse regarder ça, son équipe à la télé. Parce qu'un match par journée, on va regarder, mais il y a de grandes chances que si c'est le match principal, il y a de très grandes chances que ça soit quand même 8 fois sur 10 le Paris Saint-Germain. Donc, c'est assez risible, entre guillemets. Maintenant, pour être sérieux, quand je vois là, les sorties de Textor, par exemple, c'est... Je pense qu'il le fait dans l'intérêt de son club pour qu'on puisse voir son club à la télé. Effectivement, maintenant, c'est quand même 100 millions pour un match par journée. C'est quand même, je trouve, c'est cher payé. Maintenant, je crois qu'il est, à mon avis, il est encore un peu trop tôt pour dire, comme je vois marqué partout, ça a coûté 50 euros pour l'ensemble de la Ligue 1. Je pense qu'il est un peu trop tôt pour savoir ça. Moi, déjà, personnellement, je m'interroge. Moi, je suis abonné à plein de chaînes, Canal Satellite et tout. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, la chaîne, AZD, c'est ça ?
Dazen,
ben moi je l'ai, donc j'aurai rien à payer si c'est ça, de plus que ce que je fais actuellement en tout cas. Donc je sais pas. Je pense qu'il est un peu trop tôt pour l'instant pour répondre à tous les assoiffés de bugs, de buzz, des radios qui disent ouais, 50 euros pour voir le match. Effectivement, c'est 50 euros pour voir la Ligue
1. 35 euros, moi j'ai entendu.
40 euros sans engagement, 30 avec engagement.
On parle de 30.
Ah, là vous précise que c'est 40 euros avec un engagement.
Sans engagement
et 30 euros avec engagement.
Oui, mais pour seulement 8 ou 9 matchs. Et le 10e match, c'est 10 euros par mois, je crois, avec Bein.
C'est 15
euros pour
Bein. Avec 15 euros, donc Bein. Donc le pack de tout ça,
euros, quasiment 50 euros.
Le pack de tout ça, ça tourne autour de 50-55 euros.
Voilà. Mais ça, c'est
un budget. Ça fait 600 euros l'année, ça fait des vacances pour Jason à Nice plage.
C'est de la pure folie, ça m'étonne. Je sais pas, moi je préfère attendre avant de voir. Pour l'instant, il n'y a personne qui est sûr des tarifs qui vont impliquer.
Merci Stéphane. Merci Stéphane. Plus on te retrouve, hein. Via le quotidien du sport.fr.
Et puis, passez tous de bonnes vacances. Ouais. Hein,
bonnes vacances.
Je t'appelle demain quand même encore. Hein.
Ah bah il y a Philippe qui t'appelle demain malgré tout.
Tu fais encore un peu de rap demain quand même. Hein.
À bientôt. Bonne soirée Stéphane. Ah les amis, il fallait avoir quand même notre Stéphane des Enclos National du quotidien du sport.fr parce qu'avec lui, on n'est jamais d'accord et c'est aussi ça l'objet de cette émission.
D'ailleurs, l'équipe qui est le plus programmée les dimanches soirs, c'est pas le PSG, c'est l'Olympique de Marseille. La saison dernière, sur 30 matchs programmés les dimanches, l'OM c'est 12 matchs le dimanche soir, le PSG 8, Lyon 7.
Ah ouais, donc tu penses que cette année ça va être pareil?
C'est toujours Marseille.
Ah, étant donné, non mais parce que là ça change un peu la donne.
L'équipe qu'ils vont avoir en plus.
Oui, c'est Bein.
Parce que Bein, qui dit Bein du PSG, tu vas pas programmer davantage Marseille que ton équipe.
Regardez l'équipe de Marseille.
Bah, on verra bien dans tous les cas.
Vous verrez, vous les dimanches.
Moi je pense qu'il va falloir même. C'est pour ça que la vérité, je ne suis pas ça vraiment de très près. Merci Lucas pour tes lumières parce que ça change tellement minute après minute, jour après jour, que j'ai peur à chaque fois de dire des bêtises quoi. À peine on prenait l'antenne tout de suite qu'il y avait déjà encore des avancées, des améliorations.
Sachant que là, ils ne sont pas à l'unanimité. Hein. C'est sur les 18 clubs qui ont voté, il y en a 15 qui sont d'accord avec ça, et 3 qui sont contre. Et de ce que nous disent nos confrères de Foot Mercato, une colère froide de Nasser El Khelaifi qui trouve ça tout simplement ahurissant.
Il paraît que ça a été assez houleux. Ouais.
Bah, écoute,
et la Brune qui a refusé 500 millions de Dazen il y a 3 ou 4 mois.
Oui.
Qui avait déjà refusé 500 millions.
C'est pour ça que je dis qu'ils ont attendu vraiment pour le débat.
Parce que la
Brune
avait refusé déjà 500 millions
il y a quelques mois.
Sachant que Mbappé n'allait pas être dans ce championnat, il était certain de vendre le championnat de Ligue 1
beaucoup plus cher.
Oui, il avait refusé Canal+, et c'est ce que nous raconte le monsieur de Canal+, j'ai oublié son nom, il m'échappe.
Sada.
Maxime Sada qui nous explique, la Brune a refusé Canal+, il a dit qu'il voulait pas travailler Canal+, puis quand c'était la galère, il est revenu vers Canal+, sauf que l'argent que nous on avait programmé pour lui, on l'a mis ailleurs, et on a...
Les amis, vous voulez pas qu'on fasse un consortium pour aller gérer cette affaire-là? Non, parce que je te jure, même moi, je sais que Dazen me propose même 450, je dis oui. Parce que quand tu regardes un peu, avec les IPTV aujourd'hui, avec la Première Ligue, avec le nombre de matchs qu'on voit à la télé, on est tous saturés. pour nous accrocher toujours devant des écrans à regarder uniquement que du foot. Quand bien même on est des passionnés de foot, il ne faut pas abuser. Le championnat de la Ligue 1 ne vaut pas plus de 500 millions d'euros. Il faut être sérieux tout de même.
En fait, c'est des milliards.
C'est des bulles économiques aussi. Ouais. Je veux dire, est-ce que la Première Ligue vaut 2 milliards? Enfin, c'est très compliqué de décider une valeur absolue pour un championnat.
Tu as vu les stars qu'il y a du côté de la Première Ligue. Il n'y a personne chez nous. Il n'y a que des jeunes joueurs, certes prometteurs pour certains, mais majoritairement, il n'y en a pas vraiment des joueurs qui dépassent l'entendement.
À chaque fois que ça pointe, ils partent.
Tu as raison
dans l'œil du consommateur commun, mais moi je pense par contre qu'on aura une des plus belles Ligue 1 qu'on a eu depuis 5 ans là, celle qui va.
L'avantage disputé.
Ah oui, avec le Mikotadze qui va aller à Monaco, avec Marseille qui aura des herbies, avec Lyon qui s'est repris en main avec Textor, avec Rennes qui continue à avoir des bonnes pépites, on verra, Lille qui est dans la continuité. Moi je pense qu'on aura un des plus beaux championnats qu'on n'ait pas vu en Ligue 1 depuis au moins 5 ans.
Bah écoute, je souhaite ça parce que nous aussi on a besoin d'avoir un championnat
depuis
très enlevé.
Depuis Covid, je pense qu'on aura le plus beau depuis la période Covid, je pense qu'on aura le plus beau.
On le souhaite tous, on l'attend.
Pour ceux qui regarderont pas.
On l'appelle justement de tous nos voeux. Les amis, un petit quiz pour la route, pour la dernière.
Allons-y.
C'est parti. Jason, t'as une petite virgule pour moi.
Comment il s'appelle l'arbitre de 88.
Allez, je vais te laisser.
Bon, allez, Lucas, fais-nous un jingle, là, s'il te plaît.
C'est parti.
Première question, les amis, le quiz. Finale Euro 2024. Hein. Alors, la finale donc, qui s'est déroulée aujourd'hui même à l'Olympia Stadion de Berlin. En quelle année ce stade a-t-il été inauguré ?
2006.
Combien ?
2006.
Non.
Pas du tout.
Il est très ancien.
64 ?
Il a été rénové par la suite, mais inauguration officielle.
Stadion, j'en ai aucune idée.
C'était pas pour les JO de...
1938 ? 37, ça veut dire ?
Ouais.
36. Les fameux JO de 36.
Tu l'as vu ce soir à la télé, comment il a été retapé ?
Ouais. En fait, j'ai dit ça parce qu'il y a beaucoup de stades qui ont été refaits à l'occasion de la Coupe du Monde 2006 et on sait qu'ils ont été aussi modernisés, contrairement à la France qui s'était un peu loupée en 98 puis en 2016. L'Allemagne en 2006, ils ont fait un super travail avec leur stade et voilà.
Août 1936, l'inauguration de ce stade. Donc c'est bien. Alors les amis, notre ami François Le Texier, d'ailleurs, vous pensez qu'il a fait un bon arbitrage?
Très bon arbitrage.
Tranquille.
Sans faute.
Bravo François.
Alors François Le Texier, les François ils réussissent beaucoup. Hein. Appelez vos enfants François.
Hollande, Mitterrand.
François Le Texier, François Bayrou aussi.
Lui n'a pas été le président.
Je suis pas sûr. Le théorème a basculé là.
Ouais. Et puis on a un technicien qui s'appelle Jason François Lindor. Vous ne le saviez pas.
En
deuxième prénom.
François, Jason.
C'est François.
Ouais, deuxième prénom. Jason François Lindor.
Il y a un pape aussi.
Le pape François en plus. Il y a pas mal des François. Alors François Le Texier, les amis, devient à 35 ans le deuxième Français à arbitrer une finale de l'Euro. Quel est le nom du premier Français ? En 1988. Exactement.
Merci Philippe.
Combien de buts Kylian Mbappé a-t-il marqué au maximum lors d'un match des Bleus ?
1.
Non, 4.
Non, je parle pas de 7 euros.
3.
Okay. Combien de buts Kylian Mbappé a-t-il marqué au maximum lors d'un match des Bleus ?
Il a mis 4. Un quintuplé avec un LFROE.
En dehors de 7 euros.
4. Il a pas mis un quintuplé récemment là, qu'on a gagné 14
4,
euros.
4, oui.
Oui, 4, c'était contre Gibraltar.
C'était pas 5. Gibraltar, c'est ça.
Ok, c'était 4.
Gibraltar, c'est bien
il
ça.
Il a dû cartonner la Jamaïque aussi.
Combien de sélections pour Mike Maignan ?
27.
29, j'allais dire.
Non.
23.
Mike Maignan, combien non ?
24.
Non.
C'est dans ces eaux-là.
Mike Maignan, combien de sélections avec les Bleus, Philippe ? Tic-tac, tic-tac.
Allez, 21,
non ? 18. Non, plus.
18. Ah, 30 ?
Ah ouais ?
Non, moins.
27 ?
Moins
23, 29,
5,
20, moins
23, 28,
moins
22,
22 sélections avec le match justement de la demi-finale. Alors les amis, je veux un nom. Passé par Crystal Palace 89-95, Aston Villa 95-2001. Il devient entraîneur dans son club.
Gareth Southgate
de Middlesbrough justement en 2006 où il reste jusqu'en 2009 et puis après sélectionneur, vous savez, vous connaissez la suite. Il est un peu comme son capitaine, hein. chat noir. Dani Olmo, tiens, buteur, passeur décisif et tout ça, on connaît, un joli Euro. Il a été titulaire en demi-finale contre l'équipe de France, il a inscrit le but de la victoire et tout ça on le sait. Quel âge a-t-il ?
23.
Non.
26.
Non,
26 ans. Ouais, 26 ans. Ouais, il est vieux, hein, Daniel Moore.
98.
Il fait pas trop, il est vieux.
Je pensais que c'était encore. En 2000.
Non.
Avant-dernière question. Luis de la Fuente Castillo, l'entraîneur sélectionneur champion d'Europe. Tu sais, j'avais écrit ça avant. Il est mis champion d'Europe avant, t'as vu ça? Champion d'Europe depuis donc ce soir, est un ancien joueur devenu entraîneur. À quel poste jouait-il?
Milieu défensif.
Non.
Il a trouvé une tête de milieu défensif.
Non.
Défenseur central alors?
Non.
Il n'a pas une tête d'attaquant, désolé. Je ne dirais pas attaquant.
Ah, Louis de la Fuente, Castillo.
Latéral.
Oui, mais
latéral gauche.
Gauche. Ouais. Latéral gauche.
Il a une tête de jouer derrière, de toute façon.
Et puis une dernière question pour la route, les amis. Où se trouve exactement Berlin, la ville où s'est déroulée la finale de l'Euro à l'Olympia Stadium?
Bah, ça, c'est, déroulé.
C'est, ça c'est la géographie.
C'est la capitale de l'Allemagne, c'est entre l'Est et l'Ouest.
Bah voilà.
Le centre de l'Allemagne.
Ouais. Ouais, précise, là, je veux une précision, les amis.
Dans le nord? Non, nord. Attends, nord, dans l'Ouest. Nord, c'est Munich, non? Non, je sais plus.
À côté de Strasbourg.
Où se non, trouve.
C'est plutôt loin de Strasbourg.
Exactement, loin, Berlin. La finale s'est jouée à Berlin.
Oui.
À l'Olympia Stadium. Où se trouve Berlin?
À l'ouest de l'Allemagne.
C'est plus à l'est, justement.
L'Allemagne de l'Est?
Non.
À l'est, plutôt.
Ouais. Ça, c'est pas suffisant.
Nord-est.
Nord-est, c'est nord-est, non, bah nord-est non, de l'Allemagne, justement.
C'est ça que tu cherchais. Bon,
ben oui, parce que pour le coup, quand tu regardes, c'est vraiment au nord-est.
Sauf que comme il y avait la séparation Allemagne-Est-Ouest, il y avait aussi les frontières dans Berlin, etc. Donc c'est compliqué de qualifier Berlin à l'est ou à l'ouest.
Combien d'habitants pour la route? Et tu auras droit à un bisap.
Plusieurs millions. Plusieurs millions. Plusieurs millions.
Non, beaucoup moins.
Un million?
Trois.
Trois, un peu plus.
Quatre.
3,8 millions.
Ah, c'est une petite ville, Paris,
à peu près.
Paris, non, Paris, c'est 2,5 millions intramuros. Hein. C'est la banlieue qui est gigantesque.
Ouais, Paris, c'est petit, en fait. Ouais.
C'est une toute petite capitale, Paris.
Merci, les amis, dans tous les cas. Merci à vous, merci Ibrahima, Jason Lindor, François, un nouveau nom de baptême. Et ça se voit qu'il est impatient de rentrer. Merci, Lucas. Et merci puis, Philippe, on te retrouve demain pour Mon Paris Sport en 20h30 sur monparisfm.com en direct. Et une sorte de bilan aussi de 7 euros. Une d'artifice. Émission très enlevée, une émission feu d'artifice. Voilà. On se retrouve très, très, très prochainement. Soignez-vous bien si vous n'êtes pas très en forme. Et puis, on vous embrasse. Bye. Bonnes vacances. Saying